connaissance, les Perses par Roland Auguet, aujourd'hui Zoroastre et l'Occident avec Clarisse Ehrenschmidt.
Se place d'un point de vue historique, on peut dire que l'Iran antique, beaucoup plus que les autres empires peut-être, a été un empire à éclipse. Et qu'en tous les cas, ce mouvement de diastole, systole, expansion et rétrécissement, si l'on peut dire, a été d'une ampleur tout à fait particulière. Alors expansion, c'est vers 550-500 avant Jésus-Christ, lorsque la dynastie des Achéménides entreprend la conquête du bassin méditerranéen que Cambyse achèvera par la conquête de l'Égypte. D'ailleurs, trait tout à fait caractéristique de cette histoire, c'est qu'un peu plus tard, Darius sera presque obligé de reconquérir cet empire morceau par morceau. Et puis, il y a par ailleurs des phases de rétrécissement et d'affaiblissement extrême qui sont dus en partie à des intrigues de palais et puis au fait que la noblesse perse est tout à fait frondeuse et toujours à l'affût d'affaiblir le pouvoir central pour s'emparer du pouvoir, si bien qu'à certains moments, eh bien, cet empire antique de l'Iran, il tombe, on peut dire, presque en poussière. Et c'est ce qui se produira, par exemple, de façon très surprenante pour les contemporains, sous le choc des armées d'Alexandre, dont les successeurs, les Séleucides, n'ont pas laissé non plus un souvenir impérissable, pas plus d'ailleurs que les Arsacides d'une dynastie parthe dont l'effort consista à contenir tout simplement l'expansion romaine. Et il faut attendre le second siècle après Jésus-Christ pour que l'Iran retrouve un éclat presque semblable et même peut-être supérieur à celui qu'il avait connu sous les Sassanides. Alors voilà en très très gros le cadre historique tracé, mais aujourd'hui il faudrait d'abord peut-être, ce qui n'est pas facile, commencer par essayer de définir géographiquement et peut-être ethniquement l'Iran antique avant de voir comment l'Occident a tenté d'appréhender cette civilisation, Clarisse Ehrenschmidt.
La terminologie n'est pas très claire. Nous parlons, nous, d'Iran moderne, et nous parlons d'Iran antique également, mais également de Perse antique. Il n'y a pas de raison d'employer l'un ou l'autre terme. Disons d'abord que Iran, le terme actuel, est un vieux mot qui est le génitif pluriel du mot « aria » qui a donné notre vocabulaire qui est de sinistre mémoire que l'on appelle « arien ».« Aria » était le terme, un adjectif, dont le sens n'est pas très facile, peut-être ce qui donne l'hospitalité ou bien quelque chose de ce genre, que se donnait une population assez variée, à la fois iranienne actuellement et indienne. C'est un terme qui appartient au vieux fond de vocabulaire indo-iranien. Les indo-iraniens sont un sous-groupe de la grande famille linguistique indo-européenne. Donc, Iran veut simplement dire le pays des Aryas. Alors, que signifie géographiquement ce pays des Aryas? C'est grosso modo, évidemment, l'Iran moderne, c'est-à-dire les plateaux autour du désert central qui s'appelle le Dasht-i-Lut et le Dasht-i-Kavir, qui sont deux déserts terribles au centre de l'Iran. Mais l'Iran de l'Antiquité est beaucoup plus vaste que l'Iran moderne. Il s'étendait beaucoup plus à l'est. Il comprenait l'Afghanistan actuel, toutes les régions de l'Hindoukouche, et puis surtout une bonne part des républiques socialistes soviétiques de l'Asie centrale, l'Ouzbékistan, Ouzbékistan au minimum, Tadjikistan au minimum. Les Iraniens sont eux-mêmes des Indo-Aryens qui parlaient donc une langue indo-européenne fortement apparentée aux langues indiennes. Et s'ils ont occupé le plateau iranien disons à la fin du deuxième millénaire avant notre ère, il en est resté d'immenses groupes qui ont nomadiser plutôt que naviguer dans le Caucase, dans l'Europe du Sud, vers les steppes, ce qu'on appelle les steppes de l'Europe du Sud, dans les régions proches de la Roumanie, et puis également en Asie centrale, c'est-à-dire depuis les républiques socialistes soviétiques du Tadjikistan et de l'Ouzbékistan dont j'ai parlé tout à l'heure, jusqu'à la limite de la Chine. Il y a eu des nomades iranophones, donc parlant des langues iraniennes, depuis la plus haute antiquité jusqu'à relativement récemment, toujours dans ces régions d'Asie centrale. Enfin, bref, il ne faut pas imaginer que pour l'Antiquité, ce soit les mêmes notions géographiques que dans l'Iran moderne. Par exemple, l'Iran de la période achéménide, parthe et sassanide concerne et comprend toute la région actuelle de l'Irak. La Mésopotamie a été occupée par les Perses à partir du 539 avant notre ère, avec toute la région de Babylone, toute la Mésopotamie du Sud et la Syrie du Nord, non pas la Syrie, mais l'Assyrie, qui se groupe autour des villes de Assur et Ninive. Et donc, à une période ancienne, il y a eu un moment où ces régions-là étaient totalement sous gouvernement iranien, c'est-à-dire au 6e, 5e, 4e siècle de notre ère, puis sous gouvernement séleucide grec jusqu'au 1er siècle de notre ère, et après sous gouvernement parthe, et ensuite de nouveau sous gouvernement iranien. Donc la notion d'Iran antique est une notion qui, géographiquement, n'est pas homogène. L'Iran actuel est un petit peu homogène. On pourrait dire simplement que la région du sud-ouest de l'Iran, qui est la plaine qu'on appelle le Khuzistan, est une région qui, géologiquement, appartient à la Mésopotamie, qui se trouve au sud du Zagros, le Zagros étant le massif montagneux qui sépare la Mésopotamie du plateau iranien. Actuellement, il sépare l'Irak de l'Iran, et la plaine du Khuzestan est la porte permanente ouverte entre les riches terres de la Mésopotamie actuellement irakienne et les terres plus pauvres, des hauts plateaux secs, semi-aride de l'Iran. Que cette riche plaine soit une litige actuellement ne se comprend très bien par la géologie et par la géologie essentiellement. Je ne veux pas parler d'un héritage historique ancien qui me paraîtrait une erreur et une extension conceptuelle de mauvaise qualité. Enfin, on ne peut donc pas imaginer l'histoire de l'Iran antique de la même façon que l'on connaît la géographie de l'Iran moderne. C'est évidemment beaucoup plus flou, beaucoup plus vaste et beaucoup plus compliqué que ça.
Alors, ces Iraniens, ces Aryens, ils s'installent dans la haute antiquité, Clarisse Ehrenschmidt.
En s'installant là, disons, à la fin du deuxième millénaire ou au courant du deuxième millénaire, ils ont occupé les plateaux de l'Iran actuel. Mais ces plateaux n'étaient nullement vides. Ils étaient en partie peuplés par des Élamites. Ces Élamites formait une civilisation extrêmement ancienne qui avait inventé l'écriture à la tout à fait fin du troisième millénaire avant notre ère, qui parlait une langue qu'on connaît et qu'on comprend formale. Je m'y suis souvent intéressée et je dois dire que c'est extrêmement difficile. Et qui n'est ni une langue indo-européenne, ni une langue sémitique, ni une langue apparentée au sumérien, ni une langue apparentée au caucasique, etc. Donc c'est une langue qui n'a ni frère ou cousin, voisin, ni descendant, c'est-à-dire que si nous pouvons comprendre la structure d'une phrase, nous n'en connaissons pas le vocabulaire, donc ça pose des problèmes gigantesques. Toujours est-il que ces Élamites habitaient la région de la Perside, donc de la Perse ancienne, tout à fait le sud-ouest de l'Iran actuel, aux environs de Shiraz, Persépolis, Suse, et dans la région qui est extrêmement bombardée actuellement, c'est-à-dire la région de Dizful. Elle était peuplée d'Élamites. Ces Élamites sont donc des individus tout à fait indépendants des grands groupements humains que l'on connaît dans l'Antiquité proche et Moyen-Orientale, qui avaient une civilisation tout à fait autonome et originale et curieuse que l'on connaît assez mal. Une civilisation urbaine, agricole, et avec les métaux, la sculpture, un art, une religion, etc., qui ne sont pas des Iraniens. Et pourtant, ils font partie du fond culturel et historique qui forme l'Iran ancien, puis l'Iran moderne.
Bien. Alors, le panorama général étant dressé, il resterait peut-être à voir comment l'Occident s'est intéressé à l'Iran. Et je crois que là, il faut prononcer le nom que tout le monde connaît, qui est le nom de Zoroastre, ou Zarathoustra.
Ça, c'est une longue histoire, oui, parle-t-on de Zoroastre ou Zarathoustra. Il m'arrive de, en général de parler de Zoroastre, et en même temps, je crois qu'il faudrait que je parle de Zarathoustra. Alors, ça n'est pas bien, mais je vais vous expliquer pourquoi. Eh bien, c'est parce que nous n'avons pas connu Zarathoustra ou Zoroastre par les textes de la tradition iranienne. Nous avons connu Zoroastre par les textes de la tradition grecque. Zoroastre est la graphie grecque de la prononciation perse du nom proprement iranien qui est Zarathoustra. Zarathoustra est un drôle de nom. C'est l'histoire la plus drôle de toute l'iranologie, c'est qu'on s'est longuement interrogé sur que voulait dire ce nom propre. Vous savez bien que, par exemple, tous les noms propres ont une étymologie. Le mien, Clarisse, vient de Clarus, qui veut dire clair, lumineux, et a une histoire au travers de Sainte-Claire, etc. Bon, on s'est demandé ce que voulait dire Zarathoustra. Pendant très longtemps, on a cru que ça voulait dire l'étoile jaune. L'étoile jaune, mais c'était une étymologie fausse. Je crois que c'était l'étymologie à laquelle croyait Nietzsche. Il y a toute une histoire à propos de Nietzsche, mais je crois qu'on n'aura pas le temps de la raconter. Et puis, on a encore longuement discuté pendant tout ce siècle, et il n'y a qu'une dizaine d'années, qu'on s'est rendu compte que Zarathoustra était un mot composé de deux composés, dont Oustra, qui veut simplement dire le chameau, et Zarath, qui veut dire vieux. Donc, Zarathoustra, c'est celui qui a de vieux chameaux. Alors, évidemment, pour un grand prophète de l'Antiquité, ça n'est pas terrible. Ça a suscité des tollés extraordinaire, parce qu'on préférait que le vieux prophète de l'antiquité iranienne donc soit l'étoile jaune, ou bien qu'il y a des chameaux jaunes, à rigueur les chameaux on ne pouvait pas y échapper, enfin bref, on voulait quelque chose d'un peu plus chic. En fait, c'est un nom apotropaïque, c'est-à-dire c'est un nom qui éloigne l'envie des dieux. On donnait des noms un peu minables, comme ça, aux enfants, à Zarathoustra qui a des vieux chameaux, bon, ou bien un autre qui a des chevaux maigres. Bon, pourquoi ? Parce que, comme ça, les dieux, ou le destin, ou la fatalité, n'allaient pas avoir envie de ces gens heureux si on proclamait, au contraire, qu'ils avaient des beaux chameaux ou des chevaux magnifiques. Donc, on leur donnait un nom qui n'attirait pas le destin sur eux. Bref, il faut parler de Zarathoustra. Il faut parler de Zarathoustra quand on parle de la connaissance des textes, tel qu'on peut un petit peu l'accomplir dans cette fin du XXe siècle, enfin disons dans tout le XXe siècle. Le seul problème, c'est que nous ne sommes pas totalement neutres et totalement libres face aux textes de l'Iran ancien. Voilà pourquoi. Les textes de l'Iran ancien sont composés par un grand recueil qui s'appelle l'Avesta. L'Avesta, c'est grosso modo la Bible de la religion des Mazdéens, dont le grand dieu est Mazda. Ahura Mazda. Toujours est-il que les Mazdéens sont les sectateurs d'Ahura Mazda. Et leur livre central, c'est l'Avesta. Cet Avesta n'a été connu de l'Occident que très tard. C'est-à-dire qu'il a été découvert par Anquetil du Perron à la fin du XVIIIe siècle. Mais bien avant que l'on lise ces textes fondamentaux du mazdéisme, on a entendu parler de Zoroastre par les textes grecs.
Peut-être revenir au personnage que vous évoquiez tout à l'heure et qui est Anquetil du Perron, d'abord pour nous raconter sa merveilleuse histoire, et puis ensuite pour nous expliquer alors ce qu'a représenté Zoroastre dans notre approche de l'Iran. Clarisse Ehrenschmidt.
Vers le milieu du XVIIIe siècle, on savait qu'il y avait probablement quelque part des livres de Zoroastre, et surtout, on savait qu'il existait encore des Zoroastriens, c'est-à-dire des sectateurs de la religion qu'on imaginait fondée par Zoroastre, en Iran d'une part, où il porte le nom de Ghebre, qui est un nom arabe, qui veut dire infidèle, et en Inde, où il porte le nom de Parsi. Les Parsis sont des Iraniens qui ont quitté l'Iran au Xe siècle de notre ère, et qui sont allés du côté de Bombay, fonder des communautés qui sont devenues extrêmement prospères, et ils ont en même temps gardé leur religion. Ils ont perdu leur langue iranienne au profit d'une langue indienne qu'on appelle le Gujarati, mais ils ont gardé leur religion, et c'est comme ça, et c'est eux en fait qui forment le conservatoire textuel les Zoroastriens de l'Antiquité. Donc, Antile du Perron demande des fonds. Il n'avait pas de sous, évidemment, il demande des fonds. On lui dit quoi donc, allez chercher les livres de Zoroastre, c'est comme au XXe siècle, on ne vous donnerait pas un sou si vous alliez chercher des trucs impossibles. On ne vous donnerait pas un sou, sauf si vous étiez maître de recherche au CNRS ou Dieu sait quoi. Bref, pas un rond. Et comme il n'a pas d'argent, il part avec un convoi de prisonniers vers les Indes orientales. Il apprend le persan, il apprend le moyen perse, et puis il achète peu à peu, avec des histoires absolument sordides, il achète les manuscrits, certains manuscrits de l'Avesta. Et il se les fait traduire par un savant parsi qui s'appelait le Dastour d'Arabe, il se les fait traduire en persan. Mais l'histoire la plus drôle pour finir d'Anctil du Perron, c'est ce qui en est sorti. Anctil est donc revenu des Indes, on disait les Indes à ce moment-là, on dit l'Inde maintenant, on disait les Indes, il est revenu des Indes avec ses manuscrits, et puis il est revenu aussi avec toute une connaissance des langues indiennes, et en particulier du sanskrit. À partir d'Anctil, s'est développé en France, mais en Europe en général, l'indomanie, la sanskritomanie, qui a eu comme centre Paris, et en particulier les cours de Chézy, de sanskrit, au Collège de France. Tout le romantisme allemand d'abord, et ensuite européen, s'est passionné pour le sanskrit. Enfin, on avait trouvé une patrie orientale, sensible, non pas complètement rationaliste, etc. Bon, bref, les études sanskrites et ensuite toutes les études de linguistique qui a débouché sur le concept indo-européen sortent d'Anctil. Donc, Anctil a légué à l'Europe non seulement l'Avesta, mais également les études indiennes. Il a légué autre chose. En léguant une petite compréhension des langues iraniennes anciennes, il a permis indirectement l'envahissement et la compréhension de tous les systèmes d'écriture cunéiformes. Pourquoi ? C'est parce que on s'est aperçu que les inscriptions en cunéiforme de Persépolis, dont on devinait que c'était la capitale des Achéménides, c'est-à-dire la première grande dynastie iranienne de l'Antiquité, étaient en langue iranienne. On a tâtonné, puis en 1802, un savant allemand qui s'appelait Grotefend est arrivé à les lire approximativement. Au fur et à mesure des années, on a lu correctement le vieux perse, c'est-à-dire la langue de Persie du 6e, 5e, 4e siècle avant notre ère, écrite en système cunéiforme. Cette découverte a été fondamentale dans l'histoire de la connaissance de l'Antiquité. C'est à partir de la lecture du cunéiforme vieux perse qu'on est arrivé à lire le cunéiforme transcrivant l'Akkadien, c'est-à-dire la langue ancienne de la Babylonie et de l'Assyrie, puis à partir de là, l'Élamite et le Sumérien. Donc, la découverte d'Anctil fonde d'une certaine façon toute la recherche du Proche et du Moyen-Orient du XIXe siècle, autant sur le domaine sémitique que sur le domaine indo-européen. On ne rendra jamais assez raison à la personne d'Anctil du Perron, qui est un de mes héros personnels.
Alors, je crois que pour en revenir à Zoroastre, il était nécessaire de faire ce détour, mais il y a quand même un fait fondamental, c'est que Zoroastre, je crois, nous l'avons découvert à travers notre propre prisme, et là aussi, c'est toute une histoire.
Et en fait, nous n'avons jamais découvert Zoroastre, nous avons toujours vécu avec lui. Depuis la tradition grecque, eh bien, Xanthos le Lydien parle de Zoroastre d'Ahura Mazda, avec un génitif. Est-ce que ça veut dire fils d'Ahura Mazda, ou bien celui qui adore Ahura Mazda? Enfin bref, Zoroastre est connu de la tradition grecque relativement ancienne, et l'Occident a vécu avec Zoroastre. Zoroastre passe pour un mage, un sage, un type un peu invraisemblable, qui parfois a des pratiques un peu douteuses, et le mot de magique en français vient évidemment du latin magicus et du grec magikos, et l'adjectif grec magikos est fondé sur le mot iranien magouche, magou, qui veut dire le mage, c'est-à-dire en fait le prêtre, le spécialiste du rituel de la religion mazdéenne ancienne. Voilà, Zoroastre nous appartient de toute antiquité. Et l'image de Zoroastre pour les Grecs, c'est-à-dire ce savant vaguement douteux et en même temps redoutable et en même temps remarquable, habite la conscience européenne. On discute de Zoroastre au XVIe et au XVIIe siècle alors que l'on n'a pas un seul texte de l'Avesta. On se dispute à propos de Zoroastre à la jonction du XVIIe et du XVIIIe alors que l'on ne connaît pas une ligne de lui. Il y a un grand livre qui s'appelle « De Persarum Religione et je ne sais plus quoi » qui est de Thomas Hyde, qui était un savant d'Oxford, qui a écrit un volume gigantesque à partir des textes grecs, des latins, sans un texte iranien. Il y avait suffisamment de matière pour pouvoir écrire un livre de 500 pages en latin sur Zoroastre et ses frères et sœurs et ses cousins. Bref, on ne peut pas dissocier l'actuelle connaissance que nous pouvons avoir de l'Avesta, du zoroastrisme, du mazdéisme, de tout l'Iran ancien, de l'attachement fondamental de la conscience européenne à la personne de Zoroastre. Un exemple final qui donnera une idée, c'est que la tradition maçonnique a fait de Zoroastre un personnage relativement important. On connaît évidemment le symbolisme de la lumière chez les francs-maçons. Eh bien, il y a une lecture maçonnique du zoroastrisme. Elle est encore attestée dans cette fin du XXe siècle, à plus d'un égard et dans plus d'un livre, dont même des livres extrêmement savants. Donc, on ne peut pas faire la différence entre ce que la science dit et ce que le mythe dit. La science est productrice de mythes, et bien elle est productrice de mythes suffisamment anciens, suffisamment vénérés en eux-mêmes, pour qu'on ne puisse absolument plus distinguer ce qui fait partie du mythe de la conscience européenne et ce qui fait partie de la lecture des textes qui nous sont étrangers.
Les Perses, par Roland Auguet. Aujourd'hui, Zoroastre et l'Occident avec Clarisse Ehrenschmidt, co-auteur de L'Orient ancien et nous, l'écriture, la raison, les dieux chez Hachette Littérature. Nouvelle diffusion d'une émission d'octobre 1987 réalisée par Annie Wojciechowska. Les chemins de la connaissance, une émission à retrouver sur le site franceculture.com.